Daniel 12, mais ça fait partie de la Bible, chers amis, ça fait partie de la parole de Dieu encore vivante. Donc, comment nous allons comprendre ce que Dieu a à nous dire? Nous avons besoin de son aide. Daniel, vous avez entendu là, il avait du mal à comprendre lui-même. Et donc, ça nous encourage. Si, à première vue, nous avons aussi du mal à comprendre, mais le Seigneur nous aidera pour aller de l'avant, avant qu'on prie, pour que j'exerce toute justice devant vous. J'avais promis depuis 3 semaines de mentionner à l'Assemblée que Jean est parti de nouveau au Cameroun pour 3 mois et on allait prier pour lui, mais il est parti avant que je pouvais l'annoncer. Donc, si Boris a une photo maintenant, non, on n'a pas la photo, peut-être tout à la fin, on aura la photo de Jean et Jeanne, vous allez voir de qui il s'agit. Jean fait partie de notre assemblée. De temps en temps, il rentre au Cameroun pour quelques mois. Et donc, moi, je vais prier pour lui. Et puis, en même temps, je vais prier que le Seigneur nous aide maintenant. Ça va, on y va? Si vous avez le texte sous les yeux, ce serait utile là maintenant. Parce qu'il y a 3 chapitres et on va voir différents textes. C'est parfois un peu difficile de suivre un verset à un autre sur l'écran. Donc, on va plutôt se fier nous-mêmes à différents textes que nous avons sous les yeux. On va faire comme ça aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, tu demandes dans ta parole ici à Daniel pour ceux qui ont du discernement par rapport à ce qui est encore à venir. Donne-nous, Seigneur, ce matin, par l'œuvre de ton esprit en nous, à travers ta parole, ce discernement qu'il nous faut pour que nous puissions marcher dans tes voies et cela jusqu'à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Mais je me demande ce que vous attendez de l'avenir. Peut-être c'est l'avenir proche qui vous préoccupe pour le moment. Le Brexit, si vous êtes britannique, c'est probablement quelque chose qui vous préoccupe. Peut-être des résultats des examens en janvier, si vous n'en avez pas encore. Peut-être vous venez d'arriver même à Bruxelles et vous vous demandez ce serait comment quand même Bruxelles pour moi. Mais à plus long terme, peut-être vous avez aussi peur pour différentes raisons légitimes des événements qui ont lieu au travail, votre avenir, votre poste, comment développer de manière professionnelle, mais peut-être dans la famille. Peut-être il y a aussi des soucis, des inquiétudes pour vous-même, pour les enfants, pour des parents. Peut-être c'est plutôt sur l'échelle globale que vous êtes préoccupé. La montée en puissance de la Russie, de la Chine, l'islam militant nous préoccupe, je pense. Peut-être c'est le changement climatique qui vous dit qu'est-ce qui arrivera là bientôt. Peut-être c'est le pouvoir des sociétés informatiques telles que Google, Apple, Amazon et Facebook. Facebook ne fait que ses 15e anniversaire, j'ai appris. Il semble que Facebook existe maintenant depuis 100 ans. Mais à quel point, dans si peu de temps, ils sont devenus puissants, très puissants. Peut-être c'est ça qui vous inquiète. Mais l'avenir est inconnu, chers amis, dans beaucoup de domaines. Et on peut imaginer ce qu'on souhaite, on peut espérer, effectivement, mais on ne peut pas le savoir. C'est pour cette raison-là qu'on est souvent inquiet. Mais ce matin, nous jetons donc un œil à l'avenir. L'avenir à long terme. Et cela grâce à cette vision donnée à Daniel. On a mis les 3 chapitres de la fin de Daniel ensemble parce qu'il s'agit d'une longue section d'une seule vision, la dernière vision donnée à Daniel. Et la vision verset 1 du chapitre 10 a lieu lors de la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Daniel, lui, il est toujours en exil à Babylone, même si un bon nombre maintenant de ses compatriotes ont pu retourner à Jérusalem sous le leadership de Néhémie, où il a commencé la reconstruction de la ville de Jérusalem. Daniel, lui, reste à Babylone. Et c'est la fin de l'exil qui a été annoncée par les prophètes. Mais Daniel, lui, bien avancé en âge, 80, 90 ans, quelque chose comme ça, peut-être trop âgé pour qu'il puisse tracer lui-même le chemin vers Jérusalem, lui, il doit rester là où il est, en exil. Cette dernière vision confirme que même si C'est vrai que l'exil babylonien termine l'accomplissement ultime des promesses de Dieu pour le peuple de Dieu n'aura pas lieu tout de suite. Non, loin de cela. Il y aura, nous dit cette vision, une période de difficulté, de persécution, de guerre, de souffrance pour le peuple de Dieu. D'ici la fin, en fait, il y aura une longue succession de différents rois et de royaumes, différentes puissances régionales, mondiales, qui à tour de rôle auront leur moment sur scène. Et nous n'avons pas le temps ce matin d'énoncer tous les détails de la vision qui se trouve surtout au chapitre 11. Vous devez voir ça plus tard vous-même. Mais à travers une vue d'ensemble de ces trois chapitres, je vous propose les exhortations suivantes. Vous allez les voir, les quatre exhortations sur le dos de votre feuillet. Première exhortation à tirer de ces trois chapitres. Contemplez la présence glorieuse de Dieu auprès de son peuple. Contemplez la présence glorieuse de Dieu auprès de son peuple. Avant que le chapitre 11 expose le contenu du déroulement de l'histoire, le chapitre 10 prépare Daniel à le recevoir. C'est comme si on va au ski et avant de se mettre sur la piste, il faut qu'on s'habille correctement pour qu'on soit prêt pour le froid. Okay? Donc on met nos gants, on met nos manteaux, on met tout ce qu'on met, j'ignore tout ça, et puis on est prêt pour affronter ce qui va suivre. C'est ça ce qui se passe au chapitre 10. Car oui, la nouvelle qu'il recevra n'est pas une nouvelle qui est facile à écouter. Se trouver dans une situation où il y a opposition et souffrance n'est pas quelque chose qu'on cherche de nature. J'espère que vous ne cherchez pas ça de nature vous-même. Apprendre donc que l'avenir comporte son lot de tribulation suscite souvent la réaction, mais qu'en est-il de Dieu dans tout cela? Comment est-ce possible de tels ennuis prévus font partie du plan de Dieu? Et donc, avant d'entendre parler de toutes ces difficultés, Dieu assure Daniel de sa présence glorieuse. Que même si la fin n'y est pas encore, cela ne signifie pas que Dieu a abandonné son peuple. Non, il est au milieu de son peuple. Dans verset 4, 24e jour du premier mois, moi j'étais au bord du grand fleuve, nous dit Daniel, c'est-à-dire le Tigre. Levant les yeux, que voit-il? Je vis un homme. Cet homme, il est vêtu de lin avec une ceinture d'or d'ouphaze autour de ses reins. Son corps était comme de chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme un feu flamboyant, ses bras et ses jambes comme l'écate du bronze poli, et sa voix comme un tumulte. De qui s'agit-il, cet homme? Cet homme, dans le chapitre 10, parle avec Michel, l'archange. Il s'agit donc d'un être céleste, c'est certain. S'agit-il du Fils de l'homme dont nous avons déjà rencontré au chapitre 7? Il se peut que ce soit le cas. C'est clair que la vision en Apocalypse chapitre 1 de Jésus lui-même s'inspire en partie de cette vision de cet homme en Daniel 10. S'agit-il donc d'une vision maintenant du Fils de Dieu avant son incarnation? Ce n'est pas certain, car son apparence ressemble aussi les êtres autour du trône de Dieu, décrit dans la vision d'Ézéchiel, si vous connaissez celle-là. Mais comme l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas, les autres avec Daniel, nous voyons ici, ne voient pas ce que Daniel, lui, il voit. Et comme pour Paul, cette rencontre avec cet homme divin met Daniel a plein. C'est frappant cela, n'est-ce pas? Verset 8 du chapitre 10, « Mes forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé. Je n'eus plus aucune force. En entendant sa voix, il est frappé de torpeur, face contre terre. » Telle est la réaction juste et authentique devant la présence de Dieu, chers amis. Ce n'est que lorsque je comprends la grandeur, la sainteté de Dieu, que je peux ensuite apprécier sa grâce inouïe envers moi, que je peux chérir sa présence parmi nous. Et la vision de Dieu fait comprendre à Daniel que Dieu n'a pas donc abandonné son peuple. Dieu ne répond pas à notre question toujours de « Pourquoi ? Pourquoi ceci arrive ? Pourquoi doit-il être ainsi dans ce monde ?» Peut-être vous posez encore cette question dans vos circonstances à vous. Pourquoi tant d'ennui ? Pourquoi tant d'opposition et de mal ? Dieu ne répond pas forcément à cette question de pourquoi, mais il nous assure, au milieu de la difficulté, de sa présence glorieuse. Et cela nous suffit. Cette promesse de sa présence est encore plus sûre pour nous, ceux qui vivent après la venue de Jésus-Christ. Paul, s'adressant à des chrétiens, en Romains chapitre 8, que dit-il? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril. Rien peut nous séparer de l'amour de Christ. Daniel est touché par cet homme et il lui dit, verset 11 du chapitre 10, « Daniel, bien-aimé !» Verset 12, « N'aie pas peur !» Verset 14, verset 19 encore, « N'aie pas peur, bien-aimé, sois tranquille, sois fort !» C'est Dieu lui-même qui nous qualifie pour le travail qu'il nous donne à faire pendant cette période d'opposition. Notre part, c'est de saisir qu'il est là, de dépendre de lui, de sa grâce envers nous en Christ. Donc d'abord, nous devons comprendre la présence glorieuse, contempler la présence glorieuse de Dieu auprès de son peuple. Et deuxièmement, nous sommes appelés à comprendre la dimension spirituelle dans les affaires des hommes. La dimension spirituelle dans les affaires des hommes. Vous savez, je suis un fan, moi, des documentaires « The Making of ». Peut-être je dois dire ça avec un accent en français, « The Making of ». Okay? Ça veut dire que nous pouvons voir ce qui se passe derrière la scène. On a pris du plaisir à voir un film et on découvre comment ils ont fait le film. Moi, j'aime toujours regarder ça. Je peux gaspiller un peu trop de temps, d'ailleurs, avec des vieux DVD où je sélectionne « The Making of ». Je dis « Ah, super sympa ». Apparemment, pour « The Making of Harry Potter », c'est un studio du cinéma où siège une exposition permanente près de Londres, offrant un aperçu des coulisses de tous ces films Harry Potter. Pour les 6000 visiteurs par jour, cela permet, à travers une visite guidée, d'une réaction comme celle-ci. « Ah, je comprends. C'est comme ça qu'ils ont fait. » Ok? Si vous voulez, le chapitre 10 permet de voir « Ah, ok, c'est ça ce qui se passe. Okay? » Dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons derrière la scène le déroulement de notre monde. Et ce que nous voyons, c'est à quel point il y a une dimension spirituelle derrière ce que nous vivons, chers amis, en tant que peuple de Dieu. Verset 12 du chapitre 10, le messager divin dit à Daniel que Daniel a prié. Ses paroles ont été entendues et grâce à cela, ce messager, il est venu. Mais verset 13, il a été résisté pendant un temps par le prince du royaume de Perse, un être céleste, mais qui est contre le peuple de Dieu. Et cela pendant 21 jours. Mais Michel, le prince qui s'occupe du peuple de Dieu, l'archange, votre prince pour le peuple de Dieu, verset 21 nous le dit, lui, il est venu en aide dans ce combat. Rappelons-nous que Daniel avait jeûné et était en deuil pour combien de temps au début du chapitre, verset 2? Pour 3 semaines, 21 jours. Donc ce que nous voyons derrière la scène, c'est qu'effectivement, il y a un combat dans les cieux, il y a une dimension spirituelle à notre combat. Et la prière est un outil puissant dans ce combat. Si nous lisons notre Bible jusqu'au Nouveau Testament, nous savons, chers amis, que cela est bien le cas. Éphésiens chapitre 6 nous dit ceci à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, il parle à des chrétiens, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable existe. Il est réel, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce qui se passe sur terre, cette lutte dans laquelle nous sommes emportés en tant que peuple de Dieu, reflète à une lutte également qui a lieu dans les lieux célestes. Est-ce que cela signifie que nous devons nous préoccuper des démons à gauche et à droite, le démon d'Odergam qui se bat aussi avec le démon de Woluwe-Saint-Pierre pour que l'Église à Woluwe-Saint-Nom, etc., etc. Est-ce que c'est comme ça que nous devons être préoccupés en tant que peuple de Dieu? Devons-nous développer un ministère d'exorcisme contre tous ces démons? Non, le chrétien sait que nous n'avons rien à craindre à Satan. Nous savons même plus que Daniel, de nouveau, parce que nous vivons après la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre à Satan et de ses armées, même si c'est vrai, il continue à rôder comme un lion. Pourquoi? Parce que son pouvoir est limité, chers amis. Colossiens chapitre 2, verset 15, nous dit « Jésus-Christ a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Le mal a été vaincu par Christ à la croix. Et donc, plus rien à craindre, même s'il continue à exercer un pouvoir. Mais nous ne sommes pas naïfs, alors, quant à cette lutte. Car l'ennemi est rude. Et il aimerait nous faire du mal. Mais nous, nous nous revêtons des armes dont Dieu nous a fournies grâce à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il suffit de lire chapitre 6 d'Éphésiens pour comprendre toutes ces armes qu'il nous donne, dont la prière fait partie. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Nous avons vu la semaine dernière au chapitre 9 en quoi consiste une prière qui glorifie le Seigneur. Et donc ici, nous sommes aussi exhortés à continuer dans la prière pendant cette période des derniers jours. Comprenez donc la dimension spirituelle dans les affaires des hommes. Bon, avec le chapitre 10 en place, l'assurance de la présence de Dieu, un aperçu du combat d'un point de vue céleste, nous sommes maintenant bien équipés pour le contenu de la parole que ce messager divin annonce verset 21 du chapitre 10. Mais je t'annonce ce qui est inscrit dans l'écrit de vérité. Et ce qui est écrit dans ce livre de vérité est exposé pour nous tout au long du chapitre 11. Et cela concerne en grande partie l'histoire des puissances régionales au nord et au sud d'Israël. Le verset 5, par exemple, du chapitre 11, parle d'un roi du sud qui viendra. Le verset 13, d'un roi du nord qui viendra. Et dans ce chapitre, nous suivons les hostilités entre ces deux royaumes, nord et sud. Au sud, en Égypte, il y avait les Ptolémées. Je ne sais pas si je le prononce comme je le dois en français. Et au nord, en Syrie, il y avait les Séleucides, différents royaumes dans les siècles avant Jésus-Christ. Israël se trouve au milieu de ces deux grandes puissances. Et donc, oui, parfois Israël, le plus beau pays, n'est-ce pas une belle expression, verset 16 du chapitre 11, elle sera emportée dans ces hostilités qui vont avoir lieu. Mais au verset 21, les choses progressent et un homme méprisable, 21 du verset 11, un homme méprisable entre sur scène. Et dans l'histoire ici, il s'agit d'Antiochos Épiphane. Nous avons déjà eu l'occasion de contempler cet homme au chapitre 8. C'est pendant son règne, un règne de 3 ans et demi, court mais brutal, que Daniel est averti de la lutte à laquelle le peuple de Dieu devra faire face. Et donc, troisième exhortation, sachez qu'il y aura une lutte à laquelle le peuple de Dieu devra faire face. Car même si sur le plan de l'histoire profane, cet Antiochus Épiphane n'est pas fort important, si on n'a pas lu la Bible, les livres apocryphes, peut-être on n'aurait jamais entendu parler de cet homme. Il n'est pas fort important sur le plan global de l'histoire. Mais dans l'histoire du peuple de Dieu, il joue, cet homme, un rôle très particulier. Car on péchait, selon ces versets du chapitre 11, dans ses projets de triompher en Égypte, probablement ils y ont péché par la flotte romaine, qui est mentionné, il semble, au verset 30 du chapitre 11. Par la suite, cet homme déverse sa colère furieuse sur Israël, contre l'Alliance sacrée, c'est-à-dire contre le peuple de l'Alliance sainte. Et la persécution sera rude. Sous ses ordres, il proscrira pour le peuple de Dieu la circoncision. Il mettait à mort ceux qui célébraient le sabbat. Il interdisait les sacrifices au temple. Au sein du temple, il avait même fait installer une grosse idole de Zeus. C'est l'horreur dévastatrice au verset 31. Une abomination, c'est l'autre moyen de l'appeler. Pour le peuple de Dieu, c'était un moment terrible. Deuxième siècle avant Jésus-Christ. À une occasion, apparemment, il insistait qu'une famille de 7 frères et leur maman goûtent le sang d'un animal impur, le porc, et lorsqu'il refusait, il les torturait l'un après l'autre jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce qui distingue le mal que cet homme a commis, c'est non seulement, je pense, la persécution et la souffrance sous son règne. Ça, le peuple de Dieu avait déjà l'habitude. Mais c'est le fait de carrément imposer sur ce peuple une autre idéologie. Il exigeait qu'il participait à son idéologie, à lui. Il exigeait qu'il renonce à la propre foi. Et il réussissait, verset 30 et 32 de notre texte, il fera apostasier, pas des paroles enjôleuses, les profanateurs de l'Alliance. Et là, nous ne sommes pas, en fait, aussi loin, chers amis, de notre époque. je pense. Notre époque à l'Occident, où on commence à dire à des chrétiens aujourd'hui que de l'opposition au mariage gay, ou un refus d'accepter qu'on puisse choisir notre genre, une telle opposition ne devrait plus être tolérée. Au nom de la tolérance, tout doit être accepté, on commence à nous imposer, nous les chrétiens, de manière intolérante, que nous devons accepter leur idéologie. Et une telle persécution coûte cher, et nous coûtera cher, d'ici quelques années, chers amis, si on n'a pas encore senti cela. Verset 33, ils trébucheront, le peuple de Dieu, pour un temps, à cause de l'épée, des flammes, de la captivité et du pillage. Et ça continue aujourd'hui, n'est-ce pas? D'ici 15 jours, nous allons vous inviter à un événement organisé par Portes Ouvertes, à IBC, l'Église internationale baptiste. Ils ont distribué une annonce que vous recevrez, je pense, dans le MailChimp cet après-midi. Ben, ils organisent un événement pour soutenir ce qui se passe en Inde, voilà, sur l'écran. Rien qu'en décembre de l'année dernière, à l'est de l'Inde, une chrétienne est brûlée, vive, en raison de sa foi. Après le meurtre, les villageois ont manifesté pour exiger que les chrétiens du village exécutent tous les rituels hindous nécessaires pour apporter la paix à l'esprit de cette femme décédée. Selon eux, sans cela, cette mort sera considérée comme une malédiction pour le village. Nous sommes appelés à être avec nos frères et sœurs, solidaires, parce qu'ils souffrent. Cette vision de Daniel, merci Boris, nous prépare pour de tels événements. Car le type d'oppression soumise sous le joug de cet Antiochos Épiphane devient par la suite un modèle de l'oppression que l'Église doit supporter dans les derniers temps. Comme disait l'apôtre Paul à Timothée, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Christ Jésus seront persécutés. Vers la fin du chapitre 11, à partir du verset 40, peut-être un peu avant d'ailleurs, peut-être c'est le verset 34, verset 36, ce ne sont pas des versets faciles, mais nous commençons à nous projeter dans un avenir plus lointain. Après cet Antiochus, et vers maintenant le temps de la fin. Cela parle, verset 36, d'un roi qui s'élèvera, se glorifiera au-dessous de tous les dieux. Il dira des choses inouïes contre le Dieu des dieux. C'est pire ça qu'Antiochus Épiphane. Nous avons affaire, il paraît, à l'Antichrist, qui déclenchera un moment tellement dur que chapitre 12, verset 7, la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Cela cadre avec des données que nous voyons dans le Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous parle de l'adversaire qui s'élève au-dessous de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Parce que si vous voyez, nous projette tout à la fin. Mais l'apôtre Jean nous avait aussi averti que même si un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous sommes dans les derniers temps. Déjà, l'opposition est rude contre le peuple de Dieu. Mais comment réagir à de telles annonces? On doit accélérer, je vois, par rapport au temps. Alors, de deux façons, c'est prévu à l'avance. C'est prévu à l'avance, chers amis. La vision de Daniel s'est réalisée. Les événements dont parle les versets 2 jusqu'au verset 33 du chapitre 11 ont déjà eu lieu, historiquement parlant. Et donc, le modèle que nous avons de ces versets-là nous équipe pour faire face à ce qui est encore à venir. Comme dit le proverbe, un homme averti en vaut deux. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Chapitre 12, verset 10. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. C'est-à-dire, nous réfléchissons par rapport à ceci. Et nous ne sommes pas donc étonnés de devoir vivre dans cette époque. Dieu, il n'a pas perdu le contrôle. Il sait ce qu'il fait. C'est prévu bien à l'avance, comme cela. Et deuxièmement, alors le temps est déterminé. Même si l'opposition sera intense, sachez que ce n'est que pour une période bien déterminée par Dieu. Verset 35 du chapitre 11, « Celle-ci est pour le temps fixé. » Fin du verset 36, « Car ce qui est décidé se fera. » Lorsque Daniel, lui, il demande, ce qu'on peut comprendre de sa part, verset 6 du chapitre 12, « Quand viendra la fin de ces choses inouïes ?» La réponse au verset 7, c'est que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est un peu énigmatique, n'est-ce pas, comme réponse. Daniel lui-même ne semble pas bien comprendre cela. Il semble, selon les spécialistes, que cette période de 3 ans et demi soit un chiffre, bien entendu, symbolique. Éventuellement, cela évoque les 3 ans et demi du règne d'Antiochos Épiphane. Et cela devient un modèle pour la période du règne de l'Antichrist. Mais qui est pris dans l'Apocalypse, dans ces versets, pour parler de toute la période entre la première venue et la deuxième venue de Jésus-Christ. 3 et demi, si vous êtes fort en maths, c'est la moitié de 7. Et il semble que nous sommes ici dans la dernière septaine de ce que nous avons vu à la fin du chapitre 9. À la moitié de la dernière septaine, nous avons appris la semaine dernière que loin de Dieu, le Christ fera cesser le sacrifice et l'offrande, parce que lui-même est l'accomplissement de ses promesses. Donc les 3 ans et demi pourraient constituer une période entre les deux venues de Jésus-Christ pendant cette dernière septaine. Quoi qu'il en soit, et de nouveau, je suis prêt à répondre à vos questions là-dessus, pas maintenant, okay. Quoi qu'il en soit, c'est un temps limité. Verset 7, tout cela s'achèvera. Quelle sera l'issue de ces choses? Demande Daniel dans son incompréhension. Le verset 9 affirme que ces paroles doivent être gardées, scellées, jusqu'au temps de la fin. Dieu a défini le temps. Il y a un temps prévu pour la fin. Verset 11 parle de 1290 jours. Encore un chiffre symbolique, lié toujours, il semble, à cette période de 3 ans et demi. Vous pouvez me demander après comment c'est lié à cela. Serait-il possible que les 30 jours supplémentaires, parce qu'il y a 30 jours plus que les 3 ans et demi ici prévus, si on fait des maths, est-ce que ces 30 jours font référence à la période de l'Antichrist? Peut-être. Si oui, qu'en est-il alors du dernier chiffre au verset 12, les 1335 jours, ça fait 45 jours de plus? Je ne sais pas. Mais ça vise une période qui dépasse l'Antichrist. Le moment où le croyant qui attend y arrive à ce temps heureux. Et cela nous mène à cette dernière exhortation. Attendez avec patience la fin glorieuse pour le peuple de Dieu. Attendez avec patience la fin glorieuse pour le peuple de Dieu. Et la fin glorieuse est là, chers amis. Il ne faut pas qu'on rate ça au verset 3 du chapitre 12. « Ils brilleront comme brille la voûte céleste. » Ceux qui auront amené la multitude à la justice, comme des étoiles, pour toujours, à jamais. N'est-ce pas une belle image? On va ce soir, quand le ciel n'est pas couvert, je pense que ce serait le cas ce soir, on regarde les étoiles et on se dit, magnifique, ces étoiles ont existé maintenant déjà depuis de longues années, n'est-ce pas? Il brille toujours. Et ce serait comme cela pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Il n'y a que deux destinations, parce que le contraste se fait avec le verset 3, n'est-ce pas? Une multitude se réveillera au moment de la fin, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le déshonneur. Une horreur éternelle. Soit nous brillerons éternellement dans le royaume de Dieu, soit nous subirons une horreur éternelle. Que faut-il pour éviter cela, chers amis? D'après le verset 1, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Votre nom est dans ce livre? Oui ou non? La réponse à cette question détermine où vous serez. Votre nom y est. Cette image d'un livre est reprise dans Apocalypse. Chapitre 20 nous dit « Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés après ce qui est écrit dans le livre selon leurs œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang du feu. » Mais quel est le livre donc de la vie? C'est le livre, Apocalypse 21, verset 27, de la vie de l'agneau. Ceux qui s'y trouvent, c'est ceux qui ont leur robe blanchie par le sang de l'agneau. Jésus-Christ, qui a donné sa vie comme sacrifice pour nos péchés. Chapitre 12, verset 10, parle d'une multitude qui sera purifiée, blanchie et épurée. Comment devons-nous attendre? Mais il y a plusieurs choses. Mais on termine juste avec le verset 13. Marche jusqu'à la fin. Tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. Que le Seigneur nous permet de marcher dans les pas de Daniel, chers amis. Nous terminons Daniel. Alors soyons soudés ensemble dans notre détermination, quoi qu'il arrive, à marcher dans la foi chrétienne avec l'aide de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous avons parcouru pas mal de choses ce matin et nous te demandons de nous éclairer là où il y a des choses que nous n'avons pas compris. Mais nous te demandons, pour les choses qui sont claires, que nous soyons équipés par toi, par Jésus-Christ, celui qui s'est donné pour nous, l'agneau immolé à notre place. Nous te demandons que tu nous fortifies, tu nous donnes d'encore attendre avec patience cette fin glorieuse prévue pour le peuple de Dieu. Et cela malgré de l'opposition, de la souffrance, de la persécution. Donne-nous de nous encourager les uns les autres, ici dans cette église, avec nos frères et sœurs, dans le monde entier, pour que toi tu sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.
Quel encouragement, n'est-ce pas? La présence glorieuse avec nous pour faire face à la lutte qui vient et qui est